Très bien. J'appelle à présent notre quatrième et dernier témoin, Mathilde Unger. Pouvez-vous, s'il vous plaît, venir à la barre, décliner votre identité et justifier votre présence devant cette cour ?
Je suis maître de conférence en droit public à l'Université de Strasbourg.
Ah, c'est un endroit intéressant, il y a quelques tribunaux intéressants là-bas.
Auteur d'une thèse sur les frontières de la justice sociale et préoccupé par les générations futures.
Merci bien. Vous aussi, vous allez être interrogé 5 minutes par la procureure, puis 5 minutes par l'avocat. Mais avant cela, comme chacun des témoins avant vous, pouvez-vous jurer de vous exprimer dans l'intérêt des générations futures ? Et pour ce faire, levez la main droite et dites « je le jure ».
Je le jure.
Merci. Madame la procureure, c'est à vous.
Merci, monsieur le président. Je vais commencer par une question simple. Comment justifier les frontières qui ont toujours été déclenchères de guerre ?
Oui, vous avez raison. Les frontières ont évidemment produit des guerres sanglantes et même aujourd'hui des situations humanitaires qui sont inacceptables. Mais si on regarde dans l'histoire, à quoi correspond, prenons le sujet au sérieux, la suppression des frontières ? La suppression des frontières, ce n'est pas la fédération, c'est l'invasion, l'annexion, l'extension d'un empire. Est-ce qu'il nous semble que ces phénomènes sont favorables à la paix ? Je n'en suis pas sûre. Et j'ajoute aussi que le creusement des inégalités que produit l'économie mondialisée est à l'origine de conflits qui peuvent être tout aussi violents. Ce ne sont pas des guerres au sens classique, et néanmoins, elles peuvent être productrices de grandes violences.
Mais dans cette logique-là, du coup, les hommes, l'humanité, les hommes n'ont pas les mêmes droits, tous. Il y a des personnes protégées, il y a des personnes non protégées.
Oui, c'est sans compter sur l'existence de la pluralité des États. Évidemment, une communauté dans laquelle tout le monde aurait exactement les mêmes droits serait une communauté qui serait vide de sens. En revanche, ce qu'on peut défendre, c'est le fait de dénationaliser certains droits. C'est-à-dire que ce qu'on trouve insupportable, c'est le fait de faire de la nationalité le seul et unique critère d'accès aux droits. Mais pour autant, on peut considérer que non seulement chacun pourrait avoir ce droit à avoir des droits dont parlait le premier témoin et donc bénéficier de droits dans son État. Et puis surtout, on pourrait exiger que l'État, lorsqu'il détermine les droits qui correspondent à un individu ou un autre, qui ne seraient pas ressortissants de son État, eh bien respecte certains critères. On en a déjà parlé tout à l'heure. Je pense qu'un des critères importants, c'est que l'État exclut tout ce qui relève de la discrimination. C'est ce que permet le droit de l'Union européenne. C'est-à-dire que pour rapprocher le statut du citoyen du statut du résident de longue durée, on se fonde sur l'ancienneté et non pas sur le sexe, la race, la religion. Il me semble que soumettre ces critères à des exigences fortes, c'est sans doute plus important que espérer faire ce pari fou que en levant les frontières, c'est-à-dire en supprimant ces seuls contextes qui, pour le moment, nous ont permis de connaître la protection de droits démocratiques, eh bien, on pourrait arriver à une meilleure protection des droits individuels. Je ne suis pas sûre que le gouvernement mondial soit le meilleur ami de la protection des droits tout universel, soit-il.
Mais au final, si les États, du coup, gardent la main sur les personnes qu'ils incluent à leur communauté sociale, ils peuvent très très bien toujours exclure certaines personnes qui sont pas souhaitables à avoir sur le territoire de certaines régions.
Bien sûr. C'est-à-dire que si vous enlevez aux États la possibilité d'exclure de leur territoire quelqu'un pour des raisons de sécurité publique, par exemple, vous leur enlevez leur souveraineté.
Alors, mais je parle de personnes moins qualifiées, je parle de personnes avec une
certaine
religion.
Bien sûr. Alors, vous posez une question très différente. C'est-à-dire que ce que vous remettez en cause, c'est pas
la
souveraineté.
Merci de noter, madame la témoin.
C'est pas la souveraineté, pardon.
Merci de noter que c'est une question différente.
Non, mais c'est vrai, c'est une question différente, c'est-à-dire celle de savoir si l'État a le droit de rester souverain sur ses frontières, ou bien celle de savoir quels critères l'État peut utiliser pour inclure ou exclure quelqu'un de son territoire. Ou inclure ou exclure quelqu'un, ça me semble encore plus important, de sa communauté sociale, économique et politique. Et à ce titre, la frontière est une institution comme une autre, c'est-à-dire qu'elle doit rendre des comptes dans une société démocratique. Et je suis très sensible à cet aspect-là, et à la fois, et même la communauté internationale, hein, d'ailleurs, peut soumettre les États au respect de certains critères. Je réutilise hein, le principe de non-discrimination, il me semble qu'il est fondamental, c'est-à-dire que la communauté internationale peut attendre des États qu'elle ne se fonde pas sur l'orientation sexuelle de quelqu'un pour déterminer s'il risque ou non d'être une menace pour la santé publique, évidemment. La communauté internationale, elle le fait, peut exiger que les États donnent des voies de recours à ceux qui se présentent aux frontières et qui sont candidats à l'accueil. Mais évidemment, il faut retourner la question, et la formulation est radicale, et donc évidemment les objections sont assez radicales aussi. Est-ce qu'un gouvernement mondial, est-ce qu'un monde sans État serait plus respectueux des droits? Est-ce que tout ce que la pluralité d'États permet comme quête de respectabilité hein, des États dans la communauté internationale ne serait pas... ne s'envolerait pas dès lors que une seule autorité existerait hein, dans la communauté internationale.
Bien. Merci, Madame la procureure. Merci. Maître Laporte, le témoin est à vous.
Merci, Monsieur le Président, Madame Unger. Si j'ai bien compris, en attaquant les frontières, on se trompe d'ennemi.
Oui, je pense qu'on se trompe d'ennemi. Je pense que, je l'ai dit tout à l'heure, je pense que le combat, c'est pas la suppression des frontières, c'est la justification des frontières. C'est-à-dire, les frontières, c'est une institution comme les autres dans un État démocratique, et il faut pouvoir la justifier, il faut pouvoir rendre des comptes.
Vous avez parlé tout à l'heure, pardon, je vous interromps, mais vous avez parlé tout à l'heure de dénationalisation des droits, hein, effectivement, de déconnecter le fait d'avoir des droits de la stricte appartenance à une nation. Et est-ce qu'on pourrait même considérer que la suppression des frontières soit un obstacle à cette dénationalisation des droits?
Bien sûr, je pense que les progrès qu'on connaît dans le processus de dénationalisation des droits, c'est-à-dire le fait que la nationalité ne soit plus le seul critère d'éligibilité aux droits, eh bien, ce qui permet ce progrès, c'est l'assurance qu'ont les États qu'ils restent souverains, c'est-à-dire qu'ils peuvent continuer à fixer les règles qui s'appliquent sur leur territoire.
Dans leurs frontières.
Dans leurs frontières, qu'il s'agisse de citoyens ou de résidents. Et je pense que cet argument peut même justifier d'accorder un droit de vote à des résidents qui ne sont pas des citoyens. Mais c'est en ayant l'assurance que le principe de l'autodétermination dont on parlait tout à l'heure est respecté, qu'ils pourront assouplir les modes, les critères d'inclusion à la communauté politique, ce qui me semble essentiel.
Donc on peut être progressiste en matière de droit et pourtant défendre les frontières.
Bien sûr. Alors c'est la grande victoire d'Emmanuel Macron pendant sa campagne présidentielle, et il avait en Marine Le Pen une meilleure ennemie, hein, d'une certaine façon, c'est de nous faire croire que l'ouverture des frontières était du côté du progrès et que tout ce qui remettait en question la mondialisation était de l'ordre du populisme, de l'arrière-garde, etc. Alors, je pense que voir l'ouverture, en général, comme allant dans le sens de l'histoire, c'est inexact pour la simple raison que le libre-échange lui-même est le résultat d'un accord international. À partir du moment où on comprend que le libre-échange est permis par un accord entre des États qui sont des entités qui ont une personnalité juridique et qui ont une personnalité juridique parce qu'ils ont des frontières. Alors la question n'est plus de savoir si on est ouvert ou fermé d'esprit. La question devient de savoir ce qu'on veut mettre dans cet accord qui est toujours là, que la frontière soit ouverte ou que la frontière soit fermée.
Donc vous pouvez certifier aux membres du jury ici présents que quand tout à l'heure ils vont se prononcer pour le maintien des frontières, ils ne seront pas d'affreux nationalistes.
Mais je vous regrette de ne pas tenter d'influencer le jury.
Bien au contraire.
Je reformule la question.
Le moment de votre plaidoirie viendra.
Je pense qu'on peut être très attaché à un ordre international juste, équitable, et pour cette raison-là, être attaché à la voix des États et sentir que c'est à cette condition-là qu'on peut aussi les rappeler à leurs engagements, hein, qu'il s'agisse de migration, qu'il s'agisse de relations économiques inéquitables. Commençons par rappeler les États à leurs engagements. Et si on veut les rendre responsables, il faut admettre qu'ils ont une personnalité et donc une entité qu'on peut les identifier.
Et donc une frontière.
Et donc une frontière.
J'en ai fini, Monsieur le Président.
Merci, merci, Madame Unger. Vous pouvez retourner à votre place.